Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, il est 6h, temps universel. Merci de débuter votre journée en notre compagnie sur la voix de l'Amérique. En direct de Washington, depuis le studio 13, Nicolas Pineau et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une ce matin, le report des élections en Centrafrique qui pourraient désormais se tenir fin 2015.
Reprise des négociations à Alger entre le gouvernement malien et les groupes armés. Vous entendrez ce matin les attentes des populations de Gao.
Nous, notre souhait, que ce soit vraiment la définitive, quoi. Parce qu'on a eu tellement de réconciliations. Finalement, on ne croit même pas à ça. Mais si c'est la dernière qui permet d'amener la paix au Mali, on ne souhaite que ça.
À Lomé, l'opposition fourbit ses armes en vue de la présidentielle l'année prochaine.
Menace sur la rentrée scolaire au Nord Kivu, en RDC. Les enseignants réclament des hausses de salaire.
Plus ou moins 14 000 enseignants de la province du Nord Kivu sont recensés par les services provinces, mais ils sont dits NP, donc non payés.
Sans oublier les sports en fin d'émission avec Chérubin Dorsil, mais tout d'abord le journal. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Bonjour.
Report du calendrier électoral en Centrafrique. Comme redouté depuis des mois, les élections générales ne pourront pas avoir lieu d'ici février 2015, vu tous les défis auxquels doit faire face le pays. On parle à présent de fin 2015 pour la tenue du scrutin, comme nous l'explique Issia Kaba.
Dès l'instauration de cette date butoir de février 2014, les Centrafricains avaient été sceptiques. L'annonce faite hier n'a fait que confirmer ce que beaucoup pensent depuis des mois. Impossible d'organiser le scrutin à cette date. Selon Dieudonné Kombo Yaya, président de l'Autorité nationale des élections, le délai fixé est intenable.
Il est pratiquement intenable, impossible d'organiser les élections en février 2015. Pourquoi ? Parce que les conditions administratives et financières ne permettent pas. Vous savez, nous n'avons pas de budget. D'abord, le décret portant organisation et fonctionnement de l'État a été signé en juin dernier. Et puis, les documents de travail et séminaires que nous mettons en place. Donc, il est pratiquement impossible de tenir ces élections en février 2015.
Au cours des échanges vendredi avec le bureau du CNT, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'OIF, Louis Michel, avait estimé qu'il sera techniquement impossible de tenir le délai. À Bangui, par ailleurs, l'Organisation internationale pour la migration a rapatrié hier plus de 200 ex-combattants Séléka originaires du Nord. Ces éléments étaient cantonnés au camp militaire RDOT à la sortie nord de la capitale.
Autre annonce importante hier à Bangui, la Séléka a exclu pour haute trahison les trois ministres censés la représenter au sein du gouvernement. Le numéro 2 de l'ex-rébellion, Noureddine Adam, estime dans un communiqué que les trois n'ont pas été choisis par le mouvement. Après leur avoir demandé de démissionner, Noureddine Adam annonce par conséquent leur exclusion.
À Abidjan, le siège du Front populaire ivoirien a été saccagé lundi par une vingtaine de jeunes.
Le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une enquête par les services de sécurité pour retrouver les auteurs de ces attaques. Le FPI traverse actuellement une crise interne entre les fidèles de l'ancien président Laurent Gbagbo, qui réclame son retour, et ceux qui veulent participer aux prochaines élections.
Crise malienne, ouverture hier du deuxième cycle de négociations à Alger entre Bamako et les groupes armés. Objectif affiché, obtenir une paix durable dans le nord du Mali après l'intervention militaire internationale lancée l'année dernière. Ces discussions doivent aboutir d'ici la fin du mois à l'élaboration d'un pré-accord qui sera soumis au peuple malien avant sa signature officielle à Bamako. Les précisions de notre correspondant Kassim Traoré.
La première semaine des négociations sera consacrée aux communautés des régions nord du Mali. Après les auditions des populations des régions nord du Mali, il y aura trois semaines de travail dans le cadre des équipes de négociation. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, chef de file des négociateurs maliens.
C'est que nous espérons, et avec l'aide de la médiation, qu'à l'issue des 8 semaines, nous puissions arriver à un pré-accord qui puisse cimenter l'essentiel des engagements des parties, ce n'est pas encore un accord, et qu'à l'issue de cette seconde phase aussi, ces éléments d'accord puissent aussi faire l'objet de partage.
À la veille de ces pourparlers, le gouvernement malien a procédé à la libération de certains éléments du Moujouao. Les organisations des droits de l'homme au Mali ne sont pas d'accord avec ces libérations. Maître Mokhtar Mariko, président de l'AMDH.
Il ne faudrait pas que sous un prétexte faire amnistier les actes commis par ces bandits au nord du Mali. Et nous voulons vraiment qu'au cours des pourparlers, qu'on puisse mettre l'accent sur les victimes. C'est-à-dire les victimes sont des laissés pour compte.
À Bamako, les organisations de la société civile dénoncent la mauvaise organisation des pourparlers. Pour elles, ce ne sont pas des vrais acteurs de la société civile malienne qui prennent part à ces rencontres d'Alger. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Et puis l'armée américaine a mené une opération lundi contre les islamistes Shabab en Somalie, annonce faite par le porte-parole du Pentagone alors que des témoins affirment qu'au moins 4 missiles ont été tirés dans le Bachabel, détruisant 2 véhicules des djihadistes.
Les infirmiers du plus grand hôpital du Liberia, pays le plus touché par l'épidémie d'Ebola, se sont mis en grève, exigeant de meilleurs salaires et des équipements adaptés. Les infirmiers ne se remettront pas au travail tant qu'ils n'auront pas reçu un équipement de protection individuelle et des combinaisons spécialement conçues pour empêcher la transmission des maladies infectieuses. C'est ce qu'a expliqué le porte-parole des grévistes de l'hôpital John Fitzgerald Kennedy à Monrovia. Selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, le virus Ebola a tué jusqu'à présent 1552 personnes.
À Ouagadougou, 2 gendarmes français sont sur place pour l'enquête judiciaire ouverte après le crash de l'appareil d'Air Algérie. C'était le 24 juillet dernier. 116 personnes avaient alors trouvé la mort dans le nord du Mali. Les enquêteurs français ont promis aux familles des victimes de tout faire pour connaître les causes de la catastrophe. Zoumana Wonogo est le correspondant de La Voix de l'Amérique à Ouaga.
Après l'enquête technique du crash de l'avion d'Air Algérie, l'heure est venue pour celle judiciaire. Suivant les explications du capitaine Philippe Mollet, le chef de la mission enquête judiciaire.
Nous devons donc expliquer l'accident et rechercher éventuellement s'il y a des négligences, des fautes, des infractions, des dysfonctionnements. Nous disposons pour cela à la fois des 2 enregistreurs dont un est sérieusement endommagé, mais nous n'avons pas perdu tout espoir à ce sujet. Donc nous sommes très confiants sur cette mission et nous pensons que nous pourrons donner une explication famille sur ce qui s'est passé lors de cet accident.
Les enquêteurs français ont eu une rencontre avec les familles des victimes. C'était à huis clos. Ali Douedrogo, le président de l'association des familles des victimes du crash.
L'angoisse demeure au niveau des parents parce qu'effectivement, un certain nombre de données nous préoccupent. La restitution des restes, le déroulement des procédures, les juridictions devant lesquelles nous allons porter plainte, etc., etc. Nous allons faire face à ces juridictions, aux assurances, aux compagnies, et ce n'est pas une chose facile. C'est la chose la plus dure.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
La communauté de développement de l'Afrique australe affirme qu'une sortie de crise au Lesotho après le coup de force de l'armée est possible. Le Premier ministre en fuite va rentrer à Maseru et des observateurs vont être envoyés et le Parlement doit être rétabli, précise la SADC.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bientôt 6h08, temps universel. Dans le reste du monde, il n'y a pas de solution militaire à la crise ukrainienne. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a mis en garde les Occidentaux mardi contre les périls d'une escalade au moment où l'OTAN s'apprête à renforcer sa présence dans l'Est de l'Europe. En effet, le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a annoncé une nouvelle force de préparation très élevée en réponse à ce qu'il qualifie d'agression et d'intervention de la Russie en Ukraine. Les détails, Henri Francisque.
Monsieur Rasmussen a déclaré lundi à Bruxelles que la force devrait comporter plusieurs milliers de soldats prêts à être déployés avec un préavis très court. Il a dit qu'ils auraient le soutien d'unités aériennes, maritimes et des forces spéciales. La nouvelle force fait partie d'un plan d'action de préparation qui, selon M. Rasmussen, rendrait l'OTAN plus agile que jamais et représenterait une présence plus visible en Europe de l'Est. Les détails du plan seront présentés lors du sommet de l'OTAN au Pays de Galles, jeudi et vendredi de cette semaine. M. Rasmussen a déclaré que le sommet se déroule en un monde qui a changé. L'OTAN, a-t-il ajouté, doit s'adapter à l'attitude russe qui considère l'Europe comme un adversaire. Auparavant, le président ukrainien Petro Poroshenko a accusé Moscou d'agression ouverte, alors que l'armée ukrainienne vient d'ordonner le retrait de ses troupes à l'aéroport de Lugansk. Kiev accuse Moscou d'avoir tiré avec précision sur les forces gouvernementales ukrainiennes, tuant 7 soldats et faisant 25 blessés le week-end écoulé. Selon l'OTAN, la Russie a déployé au moins 1000 soldats en Ukraine, une information démentie par Moscou.
Impasse persistante à Islamabad, le premier ministre pakistanais a répété qu'il ne démissionnerait pas malgré la pression des manifestants. Nawaz Sharif doit s'exprimer ce mardi devant le Parlement. Des milliers de manifestants occupent depuis 2 semaines une place de la capitale pakistanaise pour demander le départ du chef du gouvernement qu'ils accusent de fraude électorale.
Nouvelle défaite de l'État islamique en Irak. Après avoir repris dimanche la ville d'Amerli, les combattants kurdes et miliciens chiites ont remporté 2 nouvelles victoires hier en reprenant le contrôle de Suleyman Bek à 175 km au nord de Bagdad et puis du village proche de Yankaja. Fort de ces succès, le Premier ministre sortant Nouri al-Maliki a assuré que l'Irak allait devenir, je cite, un cimetière pour les djihadistes.
Le chef de la diplomatie iranienne a dit avoir eu de bonnes discussions hier à Bruxelles avec son homologue de l'Union européenne, Catherine Ashton. Mohammad Javad Zarif a ajouté que Téhéran s'est engagé à trouver un accord sur son programme nucléaire controversé. Le groupe 5+1 devrait reprendre ses négociations avec Téhéran à la mi-septembre, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.
Voilà pour ce journal, vous êtes toujours à l'écoute de La Voix de l'Amérique. Place à la partie magazine du Monde d'aujourd'hui. Retour à présent sur les négociations d'Alger, nous en parlions dans le journal, entre le pouvoir malien et les groupes armés. Tout le monde au Mali a les yeux rivés sur la capitale algérienne, notamment les habitants de Gao. Souvenez-vous, la cité des Askia a été l'un des bastions d'Acmi, du Moujao et autres groupes djihadistes avant l'intervention internationale de 2013. Alors aujourd'hui, qu'attendent les habitants de Gao de ces négociations? Notre correspondant sur place, Boubacar Touré, leur a posé la question.
À Gao, certains souhaitent que des accords définitifs soient signés une fois pour toutes, mais attention, pas à n'importe quel prix. Oumar Dia, fonctionnaire à la retraite, représentant des sociétés coopératives de consommation de Gao.
Nous, notre souhait, que ça soit vraiment la définitive, quoi. Parce qu'on a eu tellement de réconciliations, finalement, on ne croit même pas à ça. Mais si c'est la dernière qui permet d'amener la paix au Mali, on ne souhaite que ça. Ceux qui se disent rebelles, ceux des Maliens comme nous, ceux qui ont dans la tête là, divisé, avoir une partie, ça, c'est impossible. Ils n'ont qu'à venir et que nous soyons tous là-dedans. Ils ne souffrent pas plus que nous. Alors, tant qu'on n'a pas la paix, on ne peut pas se reposer sur cette organisation. Tout ce qu'ils veulent décider, c'est de tenir compte de notre situation. Nous, on est partis avec nos familles, on est revenus encore. On ne bougera pas d'un pouce.
Madame a bien voulu garder l'anonymat. Elle est pessimiste quant à l'aboutissement d'un accord de paix. Et elle se demande d'ailleurs sur quoi on va négocier à Alger.
Quand il y a conflit, il faut nécessairement qu'il y ait des négociations. Mais sur cet aspect-là, je me demande est-ce que ce serait bien possible. Mon souhait, c'est que ça répond à nos attentes. Parce que je vois que ça ne va pas. Malgré les sacrifices, le pays est encore en guerre. Ça ne va pas. Chaque fois, il y a des attaques, il y a de ceci, cela. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils doivent, de leur côté, vraiment fournir d'efforts et maîtriser leurs partisans. Quand on parle d'accord, là, c'est de deux côtés. On dit que tous les groupes armés doivent participer. D'accord. Mais au juste, sur quoi ils vont négocier?
Quant à Sidi Mohamed Koulbali, employé de bureau, pour lui, la préoccupation des victimes de l'occupation n'est pas prise en compte.
La négociation doit commencer par la base, les populations victimes. C'est là qu'on négocie d'abord qu'est-ce qu'ils veulent de tout ça. Qu'est-ce qu'ils entendent de l'État? Qu'est-ce qu'ils attendent de la communauté internationale? Ils se réfèrent sur ça pour aller négocier les intérêts de la population. Mais nous, nous comptons que maintenant, ils vont négocier seulement sans tenir compte de nos préoccupations. Nous. C'est dommage. S'ils négocient, c'est peut-être pour le pouvoir. Le pouvoir en négocie pour leurs intérêts, pas pour cette population-là. Ce n'est pas nos préoccupations ici. Après, si dans les négociations, on voit qu'il est nécessaire de libérer ou bien d'indemniser des gens, c'est possible. Mais vous les libérez avant même de négocier. Si on les libère tous, on ne poursuit personne. Cette rébellion-là va se refaire encore.
Entre partisans de l'autonomie des régions du Nord et partisans de la démocratie renforcée, à qui cette rencontre profitera à Alger, affaire à suivre. Gao Boubacar Touré pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Bientôt 6h14, temps universel, le Togo qui se prépare pour la présidentielle de 2015. Après l'échec du dernier dialogue politique et le rejet de la loi portant réforme de l'Assemblée nationale, tous les yeux sont tournés vers la Commission électorale nationale indépendante. Les deux coalitions de l'opposition dénoncent des manœuvres pour créer des fraudes électorales. De Lomé, le reportage de la correspondante de La Voix de l'Amérique, Kyle Lawson.
Les Togolais seront appelés à élire leur futur président dans le premier trimestre de l'année 2015. La Commission électorale nationale indépendante CENI la structure organisatrice du scrutin est au centre des discussions dans le pays. La CENI, dans sa composition actuelle, n'est pas du goût de l'opposition togolaise. Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement, ANC.
On ne veut pas être placé devant le fait accompli. On veut éviter que la CENI ne pose des actes irréversibles. Parce que si cette CENI-là organise le recensement électoral, ça va être une catastrophe. Donc, nous disons deux choses. Que la CENI, dans sa composition actuelle, cesse de fonctionner, pour qu'on puisse y voir clair. La deuxième chose, c'est pour qu'on arrive à une composition consensuelle équilibrée de la CENI.
Lors d'une sortie médiatique la semaine passée, le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel sont revenus dans une déclaration sur la composition de la CENI. Dieri Tama, membre de la coalition Arc-en-Ciel.
Le CST et l'Arc-en-Ciel rappellent que les accords de Ouaga ont préconisé une composition paritaire de la CENI à raison de 5 membres pour la majorité parlementaire, 5 pour l'opposition parlementaire, 3 pour les partis politiques extra-parlementaires, dont 2 cooptés par l'opposition et 1 par le pouvoir, 3 pour la société civile, dont 2 pour le pouvoir et 1 pour l'opposition, ainsi qu'un membre de l'administration. Aujourd'hui, le régime RPT uni rejette cette composition paritaire au profit d'une combinaison qui devrait respecter la configuration actuelle de l'Assemblée nationale. Ceci conduirait à un déséquilibre inacceptable pour l'ensemble de l'opposition.
Selon le président de l'ANC, des manœuvres seraient en cours pour une fraude électorale en 2015. Jean-Pierre Fabre appelle le pouvoir de Lomé à la retenue. L'une des pistes que l'opposition togolaise veut explorer est l'approche de la candidature unique. Pour ce faire, les deux coalitions de l'opposition sont en conclave depuis un mois pour, dit-on, élaborer un programme de société pour 2015 dans la perspective d'une candidature unique. Kay Lawson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Appel au dialogue national en Guinée équatoriale lancé par Teodoro Obiang-Nguema, l'homme fort de Malabo depuis des décennies a fait ce geste à destination de toutes les composantes politiques du pays, y compris les groupes d'opposition en exil. Réélu en 2009 avec plus de 95% des voix, le chef de l'État équato-guinéen est aux commandes de son pays depuis son coup d'État, c'était en 1979 contre son oncle Macias Nguema. Pour un éclairage sur l'appel du président Obiang-Nguema, Timothée de Nogmaï a joint l'économiste Max Liniger, observateur de la vie politique équato-guinéenne.
Cet appel ne m'étonne pas parce que sous une forme ou sous une autre, il a déjà fait ça depuis 10 ou 20 ans. En fait, je crois que ce que lui veut, c'est que les opposants qui sont à l'étranger, parce qu'il fallait bien sauver sa vie, rentrent au pays et se dissolvent dans le parti unique qui est le sien, puisque c'est le seul pratiquement au pouvoir, un seul autre parti ayant un député sur les 100 de l'Assemblée nationale.
Est-ce que les partis de l'opposition en exil sont susceptibles de répondre positivement à cet appel?
À les connaître, à lire leurs écrits, à les écouter, ils réagiront négativement à cette proposition. Ils savent très bien qu'une seule chose compte pour Obiang-Nguema et son régime, c'est garder pour soi les revenus de la nation, c'est-à-dire les revenus du pétrole. Et ils savent également que le pétrole, pour Obiang-Nguema, est plus rentable que les droits de l'homme. Par conséquent, rentrer au pays sur la base des propositions d'Obiang-Nguema serait un acte suicidaire.
Au plan économique, le président Obiang-Nguema a investi l'argent du pétrole pour développer son pays. Quel bilan peut-on faire de ce côté?
C'est vrai qu'il a investi des sommes considérables qui reflètent au fond l'énormité du revenu pétrolier. Mais si on regarde en quoi ces investissements sont les plus significatifs, eh bien on s'en rend compte que c'est essentiellement des constructions, des tours, soit dans la capitale, Malabo, soit dans la capitale de la province continentale, Bata, Et alors, dans l'édification d'une nouvelle capitale au centre du pays où l'on a défriché d'énormes zones de forêt équatoriale pour y édifier artificiellement une capitale comme ça, qui absorbe d'énormes sommes sans qu'un profit pour le pays lui-même ne soit assuré.
L'économiste Max Liniger joint dans le canton de Vaud, c'est en Suisse. Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, direction l'Est de la République démocratique du Congo. La rentrée scolaire est incertaine au Nord Kivu. Les enseignants de cette province exigent une augmentation de leur salaire avant la reprise des cours qui est prévue le 8 septembre prochain. Pendant ce temps, les parents d'élèves se heurtent aussi à des difficultés financières pour acheter les fournitures scolaires. Reportage de notre correspondant Primo Pascal Roudaïkwa.
Les enseignants du Nord Kivu ont décidé de ne pas reprendre le chemin de l'école lundi prochain si le gouvernement de Kinshasa ne réagit pas à leurs revendications salariales. Pochelin Biamomoni est le secrétaire exécutif du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques.
14 000 enseignants de la province du Nord Kivu sont recensés par les services provinces, mais ils sont dits NP, donc non payés. Il y a aussi plus de 1000 écoles qui ne sont pas encore recensées. Tout cet effectif nécessite un salaire immédiat avant que la rentrée n'ait lieu.
Les tractations sont en cours entre les syndicats des enseignants et les autorités scolaires. Bazizane Maheshe, ministre provincial de l'éducation au Nord Kivu, a participé à la conférence nationale qui s'est penchée sur les revendications des enseignants.
Dans la conférence, il était question de discuter de toutes ces questions. Je dois vous préciser qu'au niveau du gouvernement central, on a pu débloquer plus de 5 milliards de fonds congolais pour voir comment majorer l'enveloppe salariale des enseignants.
À une semaine de la rentrée scolaire, certains parents disent quant à eux qu'ils n'ont pas de moyens pour acheter les objets classiques pour leurs enfants.
Je n'ai encore rien acheté jusque-là. Lorsque j'aurai l'argent, je vais tout acheter. Nous menons une vie difficile où nous forçons tout. Avec un peu d'effort, ils vont rentrer au cours. Nous préparons la rentrée scolaire bien qu'il y ait beaucoup de problèmes à résoudre. L'argent ne circule pas.
Contrairement à l'année passée, il n'y a pas d'engouement pour l'achat des fournitures scolaires, précisent quelques commerçants de Goma.
Moi, je suis en train de vendre des cahiers, des stylos, des crayons. Les clients ne viennent pas comme il le fallait. On patiente, peut-être que les gens n'ont pas encore été payés là où ils travaillent. Dès qu'ils auront l'argent, ils viendront acheter.
Ces difficultés rendent incertaine la rentrée scolaire au Nord Kivu. Toutefois, la dernière semaine des vacances est encore suffisante pour se préparer sérieusement. Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigwa pour La Voix de l'Amérique.
On passe au sport. Dans cette émission, nous retrouvons Chérubin Dorsil. Bonjour Chérubin.
Bonjour Nicolas.
En football, fin du suspense hier en Côte d'Ivoire, où le gouvernement a annoncé qu'il autorisait la tenue samedi à Abidjan du match Côte d'Ivoire-Sierra Leone qualificatif pour la CAN 2015. Les éléphants risquaient la disqualification si le match n'avait pas lieu. Autre info hier, Chérubin, le Rwanda reste disqualifié dans la course pour la CAN 2015 au Maroc.
En effet, Nico, la commission des recours de la CAF, la Confédération africaine de football, a maintenu la décision du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui avait disqualifié le Rwanda des tours préliminaires qualificatifs pour la CAN 2015 prévue au Maroc. Par ailleurs, la CAF a annoncé qu'elle n'avait pas changé sa position sur le calendrier annoncé des matchs pour les premières et deuxième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015.
Et parlons à présent d'une autre Coupe d'Afrique des Nations, celle des juniors.
Le Togo a battu dimanche à Lomé le Mali par 1-0, mais ne s'est pas qualifié pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, prévue en 2015 au Sénégal. La Côte d'Ivoire, le Ghana et la Zambie se sont qualifiés pour la phase finale de cette compétition qui va regrouper l'an prochain les jeunes du continent, rapporte l'agence panafricaine de presse.
Quelques résultats au niveau des clubs, Chérubin ?
Eh bien, au Togo, Ange Football Club perd 2-0 face à Asco, mais conserve la tête du championnat national de football de première division. En Tunisie, le club africain bat l'AS Djerba 3-1 et le stade tunisien l'emporte 2-1 sur le club Es Hammam lors de la quatrième journée jouée ce week-end. Et grâce à la défaite du club sportif, sportif sfaxien et du faux pas de l'espérance sportive de Zarzis. Ces deux clubs ont pris la tête du championnat de football de première division de Tunisie. Je veux parler du club africain et du stade tunisien.
Football toujours, transfert, grosse activité hier, puisque le buteur colombien Falcao a été prêté à Manchester United par l'AS Monaco. Autre transfert avec vous, Chérubin.
Le milieu de terrain international algérien de Marseille, Foued Kadir, a été prêté pour une saison au club espagnol de 2e division du Betis Séville. Et le défenseur central gabonais Bruno Ekwelemanga a quitté Lorient pour Cardiff, division 2 anglaise. L'international gabonais de 26 ans, qui avait un bon de sortie, aurait été acheté à 6 millions d'euros, selon la presse.
Et du tennis, ici aux États-Unis, les résultats de l'US Open.
Hier à Flushing Meadows, en 8e de finale simple dame, Serena Williams a battu Kaya Kanepi de l'Estonie 6-3, 6-3. L'italienne Flavia Panetta a battu Casey Delacroix de l'Australie 7-5, 6-2. La russe Ekaterina Makarova a battu Eugénie Bouchard du Canada 7-6, 6-4. Et en 8e de finale simple messieurs, le Serbe Novak Djokovic bat l'Allemand Philippe Kohlschreiber 6-1, 7-5, 6-4 et le Britannique Andy Murray l'emporte sur le Français Joe Wilfried Tsonga 7-5, 7-5 et 6-4.
Chérubin, merci. On va saluer ce matin aussi la nouvelle victoire des Lions de la Teranga au Mondial de basket. C'est en Espagne. Les Sénégalais ont battu hier la Croatie 77-75. À présent, quelques notes de musique. La chanteuse américaine Katy Perry qui chante Birthday. Voilà, avant de se quitter, le rappel des titres avec Anne Albertson.
Report du calendrier électoral en Centrafrique, les élections générales ne pourront pas avoir lieu d'ici février 2015, vu tous les défis auxquels doit faire face le pays. On parle à présent de fin 2015 pour la tenue du scrutin. Autre annonce importante hier à Bangui, la Séléka a exclu pour haute trahison les trois ministres censés la représenter au sein du gouvernement. À Abidjan, le siège du Front populaire ivoirien a été saccagé lundi par une vingtaine de jeunes. Le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une enquête. L'armée américaine a mené une opération lundi contre les islamistes Shabab en Somalie. Au moins 4 missiles ont été tirés dans le Bachabel, détruisant 2 véhicules des djihadistes. Il n'y a pas de solution militaire à la crise ukrainienne. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a mis en garde les Occidentaux mardi contre les périls d'une escalade au moment où l'OTAN s'apprête à renforcer sa présence dans l'Est de l'Europe.
Voilà, ainsi s'achève notre émission Le Monde aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur le www.lavoixdelamerique.com ou sur notre page Facebook. Anne Albertson et Nicolas Pineau étaient avec vous ce matin en direct de Washington. Excellente journée à l'écoute de La Voix d'Amérique.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.